the summertime.
Présence.
Radio Présence, 15h. De passage à Lourdes.
De passage à Lourdes.
Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui ne peut pas vous laisser indifférent, puisque nous allons parler sans doute de quelque chose qui a fait la notoriété mondiale de Lourdes, un des aspects importants de Lourdes, la question des miracles. Nous avons comme invité professeur Marie-Christine Mourin. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente du CMIL, le Comité médical international de Lourdes. Et grâce à vous, nous allons sans doute entrer dans un peu ce qui se vit au sein de ce Comité médical international de Lourdes, composé de médecins, de professeurs, de spécialistes qui viennent du monde entier, de différents pays. Nous aurons l'occasion de peut-être comprendre un peu comment ce CMIL s'exprime et ce qu'il dit sur les miracles de Lourdes, en tout cas les personnes qui disent être guéries à Lourdes. Et puis nous avons la chance de recevoir aussi le docteur Alexandro Di Francisis. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes président du bureau des constatations médicales de Lourdes. Vous êtes ce que l'on pourrait dire médecin permanent, ce qu'on pourrait appeler un médecin permanent à Lourdes.
C'est tout à fait.
Présent pour recevoir ceux qui disent j'ai quelque chose d'important est arrivé dans ma vie, j'étais malade et je me sens guéri. Alors, professeur Marie-Christine Mourin, coprésident du CMIL, le Comité médical international de Lourdes. Cela consiste en quoi? Vous présidez un aréopage de professeurs qui font quoi et qui disent quoi, au fond?
Alors, c'est en toute modestie que je préside, hein, évidemment, car tous ces collègues sont bien plus compétents que moi dans nombre de, et dans leur expérience de Lourdes d'abord, dans leur connaissance de Lourdes. Et donc c'est vraiment une tâche assez modeste, mais pour moi enthousiasmante, parce que peut-être par rapport à certains d'entre eux plus récemment arrivés, je connais bien l'histoire du CMIL. Comme je l'ai dit souvent, c'est une histoire familiale, puisque mon père était membre du CMIL. Et donc, je connaissais le CMIL parce qu'en famille, il en parlait. Il parlait des patients miraculés. Il était allé en examiner certains et il nous emmenait dans la voiture. Donc, pour moi, cette présidence, elle ne s'est pas inscrite comme un coup de tonnerre. Au fait, c'était une grande joie, mais elle était dans mon histoire. Et dans une histoire familiale, et avec une familiarité pour les sanctuaires de Lourdes également.
Votre père, auquel vous faites allusion là, à l'instant, était médecin lui-même et professeur de médecine, en particulier en neuropsychiatrie. À Marseille. Vous-même, vous êtes professeur en pédopsychiatrie.
Alors, en pédopsychiatrie, à l'hôpital Robert Debré à Paris. Mais là, je vais terminer ma carrière prochainement, donc je vais être à la retraite. C'est vrai que j'ai eu l'habitude des comités, quelquefois pas très simples, à la faculté, à l'INSERM, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et ces comités de collègues, éventuellement hospitaliers, universitaires, ou, sont des endroits où j'ai toujours beaucoup appris, et énormément appris dans ma carrière. Alors le comité de Lourdes était différent, mais j'étais sûre qu'il m'apprendrait beaucoup aussi dans son genre. Donc ces comités ou ces associations ou ces assemblées dans lesquelles j'ai participé se sont mis, disons, côte à côte dans ma carrière et les uns m'ont aidé à mieux gérer les autres.
Ce comité médical international de Lourdes, si vous deviez dire assez simplement à quoi il sert, Madame Mourin, comment vous l'expliqueriez? Est-ce qu'il est complaisant vis-à-vis d'une notoriété mondiale, de Lourdes, cité des miracles? Quel est son rôle? Je vous provoque un peu en disant ça comme professeur de médecine.
Alors, on pourrait croire que c'est un comité qui avalise, que c'est un comité bien gentil, de spécialistes déjà acquis à la cause, qui ne vont pas chercher midi à 14h, qui avalent tout ce qu'on leur dit, qui cherchent de la clientèle, entre guillemets, beaucoup de miraculés. Ben, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui, du temps de mon père, m'était déjà apparu à travers ce qu'il en disait et qui m'est pleinement apparu depuis que j'en fais partie. C'est un comité extrêmement exigeant, avec des membres très compétents dans leur spécialité, des collègues extrêmement intelligents qui peuvent poser des questions très pertinentes dans les autres spécialités. Donc, il y a de véritables échanges d'un haut niveau. Et il y a eu des discussions entre nous qui étaient quelquefois pas faciles du tout à propos de certains cas. Mais c'est le contraire d'un comité complaisant.
Vous le co-présidez, et ça, c'est une singularité de ce comité médical international de Lourdes, avec Monseigneur Nicolas Brouvet, qui est l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. C'est spécial quand même que un professeur de médecine et un évêque co-président un comité médical.
Alors j'ai dit un jour à Monseigneur Brouet en riant, vous allez voir que vous allez aimer la médecine et peut-être qu'un jour, on ne sait pas, vous pourriez devenir médecin.
Ah bon, vous lui avez dit ça.
Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression qu'il était extrêmement intéressé par ce qu'il entendait. Et moi et le docteur de Francisy, ça nous faisait plaisir quand même. Parce que si on faisait passer quelque chose, c'est que le comité avait un grand intérêt intellectuel. Donc, Monseigneur Brouet et les médecins restent chacun à leur place. Ils connaissent bien leur place. Mais n'empêche qu'ils s'instruisent mutuellement. Et j'ai même envie de dire en riant que je crois qu'on instruit l'évêque en médecine.
Et en même temps, il est médecin des âmes, oserait-on dire. Donc peut-être qu'il y a une instruction à double sens.
Mais chacun reste à sa place dans son rôle, évidemment.
Nous n'avons pas encore entendu le docteur Di Francisi qui nous a dit un bonjour il y a quelques minutes déjà et qui est le médecin permanent à Lourdes, qui reçoit justement ces personnes qui, frappant à sa porte, peuvent un jour vous dire « Docteur, il m'arrive quelque chose d'incroyable dans ma vie. J'étais malade, j'ai le sentiment d'être guéri, ou je ressens une guérison. » C'est ce qui vous arrive, docteur.
Ça vous, m'arrive...
Plusieurs
fois dans l'année.
Vous êtes secrétaire aussi de ce comité médical international de Lourdes.
Tout à fait.
Vous préparez les dossiers. Quel est votre rôle? Parce qu'on a dit qu'il n'était pas complaisant, ce comité médical.
Ah non, du tout.
Il est exigeant vis-à-vis de vous, alors, si je comprends bien.
Et je pense que ça est resté tel. Ça, c'était la volonté d'un autre évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Théas. C'est lui qui a voulu une deuxième instance pour avoir effectivement le rôle que Madame le professeur Mouret vient de décrire à la reprise des pèlerinages après la Deuxième Guerre, en préparation du centenaire de Lourdes. Ils imaginaient que la plus grande partie des médecins qui font partie du bureau de constatation, c'est-à-dire les médecins, le collège que se compose et décompose à fur et à mesure que des médecins arrivent au répart de Lourdes, et des médecins de pèlerinage, des médecins curieux, tout ça, sont pour la plus grande part des médecins pas forcément, dédans l'académie, dédans la recherche, dédans la... Et donc, il s'est posé la question très intelligemment, je trouve, d'avoir un deuxième niveau, composé par contre par des professeurs universitaires, des chercheurs, des savants, des académiciens, pour faire tout ce que la coprésidente vient de dire. Et alors, il avait justement pensé de confier au médecin permanent, c'est lui qui est là. Je rappelle que le bureau de constatation est né par contre en 1883, donc, et que je suis le 15e médecin permanent d'une série sans interruption qui est commencée avec le docteur Duno de Saint-Maclou. Et je suis aussi le premier non-français. Mais l'évêque avait pensé justement de confier au médecin permanent la tâche d'être le secrétaire, parce que les dossiers sont de la matière vivante, sont de la matière dynamique qui évolue de jour en jour. Donc l'année dernière, pour vous donner une idée, en 2016, j'ai enregistré sur la centaine d'entretiens que j'ai eu à mon bureau des gens qui se disent, comme vous dites justement, bonjour docteur, je suis guéri, qui m'ont dit bonjour docteur, je suis guéri. Je les ai enregistrés 34 en les croyant fondés, possibles, hautement probables. Le problème est que là, j'ai besoin de la documentation médicale. Parce qu'évidemment, il faudra que les gens m'amènent des documents d'admission aux hôpitaux, d'examens spécifiques, d'anatomopathologie, d'expertise, etc. Et pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, au moment de notre entretien, aucun de ces 34 m'a encore rien envoyé. Donc on a un problème réel, là, d'un changement comparé au passé. À l'époque du pèlerinage, la plus grande part, pèlerinage diocésain au pèlerinage organisé, ce qui s'y passait, ce que s'est passé à madame une telle ou à messieurs un tel était tout de suite le patrimoine du pèlerinage tout entier, et les médecins du pèlerinage collaboraient avec l'Aude dans la rédaction et dans la construction d'un dossier. Aujourd'hui, on a ce lent changement vers le pèlerinage plutôt de petits groupes et individuels. Et là, la personne vient dire au médecin du sanctuaire une histoire très belle et hautement probable, mais pas accompagnée par un travail après d'approfondissement et de construction d'un dossier médical. Et donc, je trouve très sage l'idée de l'évêque du Temple, confirmée par tous ses successeurs jusqu'à Monseigneur Nicolas Brouvet, de confier au quotidien de l'autre, c'est-à-dire au bureau de constatation, la rédaction des dossiers, qui un jour, après la constatation collégiale faite à Lourdes, seront réétudiés et expertisés par les profs et les académiciens du CUMIL.
Et donc c'est cette seconde instance dont vous parliez qui va débattre, qui va stimuler la réflexion, parfois même la contradiction, pour dire ce dossier ou cette personne dit ceci ou cela, mais nous n'y croyons pas, il faut encore enquêter.
Tout à fait. C'est-à-dire,
et ça peut durer des années comme ça?
Ah oui. Non, le CUMIL, non, pas seulement. Après, je laisse la parole à la présidente. Mais chez nous, au bureau de constatation, la logique est la suivante. Dès qu'on commence à avoir de la matière, on convoque une ou plusieurs réunions de bureau de constatation. Pour exemple, la dernière miraculée jugée-t-elle par l'évêque de Pavie, au nord de l'Italie, Madame Danila Castelli, elle a été... Sa guérison a été constatée à Lourdes dans une réunion de bureau de constatation et c'était la quatrième réunion de bureau, guérison 1989, constatation à Lourdes en 2010. Donc ça prend ce temps, la constatation. Le médecin permanent secrétaire du CUMIL a présenté ce dossier à la réunion suivante du CUMIL, fin 2010, un membre du comité, et c'était le professeur Santeusanio, a été chargé d'être rapporteur sur ce cas. Le professeur Santeusanio a fait un examen, je dirais, extensif, et je vous dirais presque ennuyant de ce dossier, et il a présenté un rapport écrit au CUMIL 2011, qui s'est tenu à Paris d'ailleurs, oui. Sous lequel, après, les membres du CUMIL, après une mûre et longue discussion, vous rappelez l'intervention, par exemple, de notre confrère, l'endocrinologue anglais, qui avait vraiment bousculé le groupe en disant « mais il n'y a pas de doute, diagnostiquer ça, donc c'est une réunion très profonde et très dure qu'on a eue ». Et finalement, il y a le vote. Ah. Lorsque Lourdes, nous, le bureau de constatation, on vote à Lourdes la main levée, et habituellement, on a besoin, on cherche la collégialité, donc on cherche l'unanimité des présents, le CUMIL suit les règles utilisées aussi par la consulta médicale et la congrégation romaine des causes des sangs, et on cherche d'avoir au minimum les deux tiers des membres présents. Et pour garantir le plus absolu anonymat à celui qui vote, le petit bulletin de vote est tout simplement, il y a d'un côté oui et d'un côté non. Il s'agit finalement soit de confirmer ce que le bureau de constatation avait constaté, ou en votant non, de le repousser. Et le petit texte sous le oui ou sous le non empêche de reconnaître la totale liberté d'expression de l'académicien qui donne son vote. Et donc, voilà la démarche.
Bon, nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, dans cette émission. Juste après, nous continuons ce dialogue passionnant avec le professeur Marie-Christine Mourin, qui co-préside le Comité médical international de Lourdes, et le docteur Alexandro Di Francisis, président du Bureau des constatations médicales de Lourdes. À tout de suite.
Présence. Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com.
passage à Lourdes.
De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nos invités sont le professeur Marie-Christine Mourin, qui co-préside le Comité médical international de Lourdes, et vous êtes, madame le professeur, professeur en pédopsychiatrie. Et également notre invité, le docteur Alexandro Di Francisis, qui préside le Bureau des constatations médicales de Lourdes, dont on dit parfois avec humour que vous êtes le médecin des guéris.
Pas médecin. Du tout. Enfin, oui, on le dit, c'est vrai, vous avez raison, mais ce n'est pas vrai. Et encore récemment, très, très à côté de nous, Jeannot Théillard.
Oui. Alors, y a une question qu'on se pose par rapport à Lourdes, et notamment la question des miracles. C'est qu'il y a eu 69 guérisons déclarées miraculeuses. C'est assez peu pour plus de 150 ans d'histoire. Alors que vous m'avez laissé entendre, docteur Di Francisis, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dossiers, qu'il y en avait à la fois dans vos archives, mais également en cours. Donc, de quoi parle-t-on exactement, professeur Mourin ? Quelqu'un qui se dit guéri, vous comme professeur, vous vous arrêtez où dans votre avis ? Une fois que vous avez à vous exprimer, vous dites quoi ? Vous dites il est miraculé, il est guéri,
Alors, d'abord, je crois qu'on a compris qu'avant que le dossier arrive aux experts du CMIL, c'est un dossier qui a beaucoup vécu, en sens qu'il a été complété par toute une série d'examens qui manquaient, et certains manquent définitivement parce qu'on ne peut pas les récupérer. Il a également été complété par les examens du patient qu'on a fait venir, qu'on a vu, qu'on a interrogé à plusieurs reprises. Donc, c'est un dossier extrêmement riche. Et c'est un dossier qui n'est pas toujours, malgré tout, totalement parfait, comme je l'ai dit, auquel il peut manquer quelque chose. Alors, nous, entre médecins, nous ne parlons jamais de miracle. Jamais. Ça, c'est une notion qui appartient à l'évêque. Et à l'évêque du guéri. Pas à l'évêque de Lourdes, à l'évêque du guéri. Ça, c'est une notion que beaucoup de gens ignorent. À l'évêque du diocèse du guéri.
C'est-à-dire là où vit la personne.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, d'accord.
Parce que beaucoup de personnes croient à tort que cette notion appartient à l'évêque de Lourdes. Mais pas du tout, ça c'est faux. C'est à l'évêque du diocèse du guéri. Mais nous, les médecins, nous ne parlons pas de miracles naturellement. C'est pas notre domaine. On a beaucoup, beaucoup discuté pour savoir quelles expressions il fallait qu'on utilise tomber sur une expression assez modeste, finalement, qui laisse quand même ouvert la porte, qui est celle d'une guérison médicalement inexpliquée en l'état actuel de la science. Donc, guérison médicalement inexpliquée. On ne dit pas inexplicable, ça aussi on l'a discuté. Non, c'est pas bon. Médicalement inexpliquée, et on rajoute, si on veut bien être précis, en l'état actuel de la science. Parce qu'on est quand même tout à fait modeste en sachant que la science évolue et que certaines guérisons aujourd'hui non expliquées pourraient demain être expliquées par des mécanismes que la science mettrait en exergue. Donc, on utilise entre nous cette expression. Alors on dirait, mon Dieu, mais elle vous est venue toute seule. Eh bien, elle ne nous est pas venue toute seule, cette expression. On a beaucoup discuté entre nous pour savoir, pour en arriver à cette expression-là. On a fait des propositions ou autres, on a utilisé d'autres expressions, par exemple inexplicables, mais ça ne nous paraissait pas vraiment bon. Et on en est arrivé à cette expression, à ce terme que nous employons dans les rapports, guérison inexpliquée, et on rajoute en l'état actuel de la science. C'est bien clair.
Ce qui distille quand même le doute sur tout miracle possible. Enfin, ça veut dire que miracle d'aujourd'hui peut être
de toute façon, non
miracle de demain.
Pour nous, On n'est pas dans pas le miracle. Côté miracle ou pas miracle.
On l'a bien
Donc
compris.
On est assez à l'aise. On alors, se laisse une porte de sortie.
Ces professeurs et ces médecins avec lesquels vous entrez en débat, justement, viennent de partout dans le monde. Hein. Ils sont français, comme vous, italiens. Certains sont viennent du monde anglo-saxon, Allemagne, que sais-je. Enfin, c'est vraiment une très, très grande diversité qui est représentée, à la fois de nationalité et de spécialité. Oui. Vous êtes vous-même pédopsychiatre.
Oui, c'est ça.
Ça ne prépare pas forcément à présider un comité médical international de Lourdes.
C'est vrai.
Pourtant,
c'est
vous vrai. Avez forcément un regard personnel, un peu de foi aussi sur la question de Lourdes, non? Vous en départissez à chaque fois.
Oui.
Oui.
Oui. On redevient exigeant. Quand on est dans ce rôle-là, on redevient, je dirais, des spécialistes. Alors, je suis pédopsychiatre, mais je connais quand même la psychiatrie, en général, la psychiatrie des adultes aussi, tout au moins un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans les cas qu'on voit. Et donc, on n'est pas trop, on est trois, pour avoir fait évoluer les idées sur la psychiatrie aujourd'hui. Alors, j'y participais, mais j'ai deux collègues psychiatres d'adultes qui m'ont bien aidé. Et on a fait des exposés sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'hystérie. Parce que ce terme revenait souvent. Et ça, c'est mon côté féministe. Je trouvais que je ne pouvais plus entendre parler d'hystérie à propos de certaines femmes parce qu'il y avait toujours un côté... C'était les collègues, hein, certains collègues qui prononçaient ce mot, un peu de simulation. Donc,
concernant des femmes qui disaient être guéries à Lourdes.
Oui, c'est cela. Et donc ça, on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et là, je dirais que les psychiatres, qu'ils soient d'enfants ou d'adultes, mais on est tous unis dans la même spécialité, ont un rôle assez important pour faire évoluer les confrères. Sur cette spécialité, sur ce qu'elle recouvre, et en particulier sur tout ce qui est les troubles, sur l'hystérie, sa nouvelle façon d'être vue, et les troubles fonctionnels. Donc, ce n'est pas pour être prétentieux, mais je pense qu'on a un très grand rôle à jouer, et qu'on a aussi contribué à l'évolution des idées. Mais les idées, elles restent bien ancrées quand même.
Alors, ma toute dernière question, professeur Morin, c'est secret tout ça. On peut pas. Mais sur les dossiers, on parle du secret médical. Il y a le secret médical et le secret du Comité médical international de Lourdes. On ne peut pas savoir si, par exemple, il y a des dossiers en cours qui sont intéressants et qui pourraient un jour devenir des miracles.
Ah, je vais vous décevoir, mais le médecin, il est toujours médecin. Dans quelque situation qui soit. Et il a promis le secret professionnel.
Donc ça, vous ne nous direz rien.
Ça serait une grave faute de sa part, puisqu'on est à parler de faute. En voilà une. Le médecin ne doit faire aucune publicité sur ce problème-là. Le secret professionnel joue pleinement. Donc vous ne saurez rien.
Mais est-ce qu'on peut savoir si vous-même vous êtes impressionné par des histoires que vous pouvez entendre?
Ah oui.
Oui.
Ah
oui. Le médecin, le professeur que vous êtes, est impressionné.
Et lorsqu'on fait des exposés, parce qu'on en fait aussi, je dirais, dans le monde extérieur, bien sûr, de façon tout à fait anonyme, et qu'on présente certains cas anonymisés à des assemblées, c'est une stupéfaction. De la part des assemblées qui entendent ça. Une stupéfaction. Les gens qui écoutent les auditeurs en restent quoi?
Cela signifie que vous-même, vous l'avez été quoi à ce moment-là?
Quoi?
Oui. On va rester sur cette note parce que ça dit tout de ce qu'est Lourdes, ce mystère hein, de la guérison inexpliquée à Lourdes. Merci beaucoup pour ce partage, professeur Marie-Christine Morin, co-présidente du Comité médical international de Lourdes. Et puis, vous aussi, merci, docteur Alexandro Di Francisis, président du Bureau des constatations médicales.
Merci.
Merci. Merci à vous.
de passage à Lourdes.
Présence.
Pourquoi tu allumes une bougie, papy ?
Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller.
Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église, je lègue à l'Église.
Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10.
Dans l'émission Témoins, qu'ils soient laïcs ou religieux, des chrétiens témoignent de leur rencontre avec le Christ et nous racontent cet instant qui a changé leur vie. Ils partagent ainsi leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre.
Témoins sur Radio Présence, les lundis et le dimanche à 11h.
Oh.